France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Mercredi prochain, 7 février, aux Invalides à Paris, Emmanuel Macron présidera un hommage national aux 41 Français assassinés pendant ou après l'attaque du Hamas aux abords de Gaza le 7 octobre dernier. 41 morts, il s'agit du plus lourd bilan infligé à la communauté nationale depuis l'explosion en vol d'un appareil civil au-dessus du Niger en 1989. Le calendrier traduit les hésitations de l'Élysée face aux incertitudes de la situation. Près de 5 mois depuis l'assaut barbare livré par le mouvement terroriste, la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza accumule victimes civiles, souffrances et destructions, sans parvenir à anéantir une organisation qui renforce sa légitimité politique aux yeux de la population palestinienne tout entière. 132 personnes, dont des enfants, en majorité des Israéliens et des binationaux, sont toujours aux mains du Hamas. Un cessez-le-feu serait sur le point d'aboutir, qui permettrait l'échange d'un certain nombre d'entre eux contre des Palestiniens prisonniers des geôles israéliennes. Combien de personnes dans les deux sens? Quand ce troc peut-il intervenir? Quelle durée espérer pour une cessation des combats qui permettrait aussi des livraisons cruciales d'aide humanitaire? Le projet a été mis au point à Paris le week-end dernier entre émissaires américains, qataris, égyptiens et israéliens. La direction politique du Hamas a confirmé son intérêt. Quelles sont les chances d'aboutir? Quelles méthodes pour les mettre en œuvre? Le premier ministre israélien cède-t-il à la pression d'une opinion publique ressoudé bien sûr par le choc d'octobre, mais divisé entre deux priorités, les otages ou la guerre. Quels espoirs, quels objectifs aussi du côté palestinien. À Washington, l'administration Biden envisage maintenant ouvertement l'hypothèse d'un État palestinien. La diplomatie pourrait-elle venir à bout de la guerre, sinon des souffrances et de la haine? C'est ce que nous allons tenter de comprendre ce matin grâce à vous, Sarah Daoud. Vous êtes docteur en sciences politiques affilié aux séries de Sciences Po et au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire. Patrick Klugman, ravi de vous accueillir. Vous êtes avocat de 5 familles d'otages franco-israéliennes. Pierre Azan, à Genève, conseiller spécial en matière de justice transitionnelle au Centre pour le dialogue humanitaire. Et Denis Charby, professeur de sciences politiques à l'Université libre d'Israël. Et vous enseignez actuellement, Denis, à l'Institut de sciences politiques à Menton. Maître Klugman, les familles que vous représentez ont porté plainte pour enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste, c'est le terme juridique approprié. Cet hommage qui aura lieu mercredi prochain, est-ce qu'il arrive à temps? Est-ce qu'il arrive trop tard?
Les hommages dans une situation dramatique telle que celle qui a été vécue le 7 octobre 2023, ils sont toujours dérisoires. Mais néanmoins, ils sont nécessaires. Là, nous sommes face, vous l'avez très bien rappelé, à une situation inédite. Un hommage national pour des personnes qui ne sont pas mortes ici, et néanmoins qui étaient plus d'une quarantaine de nos compatriotes. Je crois que cet hommage est très important. Je rappelle que quand on est allé en Israël, tout au début, juste pour rencontrer ces familles, qui étaient pour la plupart encore dans l'incertitude. Leurs proches étaient-ils morts? Étaient-ils captifs? Les retrouveraient-ils? Il n'y avait pas encore de libération. Toutes ces familles se tournaient vers la France, mais d'une manière irrationnelle, déraisonnée. Ils avaient perdu confiance dans le gouvernement israélien, ils ne savaient pas vers où se tourner, les institutions internationales leur apparaissaient lointaines ou partiales, et c'était la France, à ce moment-là, vers laquelle se tournaient, qu'ils aient ou non un lien avec notre pays. Et je trouve finalement important que la France réalise cet hommage. Il est peut-être trop tardif. Je comprends aussi l'hésitation. Vous savez, c'est compliqué de rendre hommage à des gens dont on ne sait pas vraiment s'ils sont vivants ou morts. C'est une décision même philosophiquement engageante. Il vient quand il vient. Il est important. Il est important pour la situation internationale. Mais je crois il est important pour notre pays, pour la France, et pour sa vocation internationale.
Sa vocation internationale, mais aussi la solidité du tissu national. On sait à quel point le drame continue, les souffrances atroces d'un côté de ces familles qui ne savent toujours pas, et il y a encore des binationaux israélo-français parmi les otages.
Il y en a encore trois.
Trois. Là, ces souffrances-là, et de l'autre côté, les atrocités qui ont lieu tous les jours à Gaza, où aujourd'hui encore les combats continuent. Est-ce que cet hommage-là, mercredi prochain, correspond aussi aux inquiétudes et aux fractures au sein de la société française? Est-ce qu'elle risque de les aggraver?
Je ne sais pas. Je réagis en tant qu'avocat à quelque chose que vous me faites remarquer. La scène criminelle, l'action criminelle, est encore en cours. Elle n'est pas figée. Normalement, nous sommes habitués à, nous, avocats, à intervenir quand la situation est figée, soit que les gens soient décédés, soit qu'ils soient libérés, etc. Là, ce n'est pas du tout le cas. L'action est encore en cours et pourtant, nous rendons cet hommage. Et nous rendons cet hommage dans une situation où on n'arrive plus, y compris en France, à nous entendre sur un narratif. Et le 7 octobre, c'est une crise de valeurs profondes, d'une crise de l'universel. Et je vais vous dire, ce qui, je pense, nous a le plus affecté, c'est que nous pensions que la violence des actes du 7 octobre 2023 était telle.
Nous, c'est qui, nous?
Justement. Et tous ceux qui sont impliqués sur ce dossier à différents égards. Mais nous pensions que l'horreur était telle que, quelle que soit la position de l'observateur, touché ou pas, français ou pas, juif ou arabe ou musulman, ou quel que soit, le narratif commun gagnerait. Et nous pensions que condamner ces actes n'aurait jamais été perçu comme féliciter ou soutenir le gouvernement israélien dans sa politique ou ce qu'il est ou ce qu'il a pu devenir. Nous pensions que là, qu'il y avait une scène d'horreur telle que ça aurait dû nous tous nous ramener du même côté. Et ça n'a pas été le cas. Et ça, je dirais que c'est la pire de nos tragédies. Ne pas avoir su rebâtir un universel à partir de cette horreur. Ne pas savoir, prendre ces Israéliens dans nos bras, quoi que nous pensions du gouvernement israélien. Ne pas vomir le Hamas et savoir soutenir les Palestiniens dans leur cause par ailleurs. C'est ça que nous avons échoué à faire, qui que nous soyons.
Denis Charby, vous-même, vous êtes franco-israélien. Est-ce que vous pensez que la cérémonie qui aura lieu mercredi prochain à Paris aura la moindre résonance en Israël?
Je doute qu'elle ait une résonance particulière, tout simplement parce qu'il y a des préoccupations que partagent aujourd'hui les Israéliens qui sont d'une autre ampleur. Hein. Même en Israël, on a décidé d'un jour, mais qui n'a pas véritablement été une commémoration nationale, ça s'est passé une semaine après. Et puis, on se dit que ce type d'événement-là, c'est pour plus tard, c'est pour après la libération des otages, après le cessez-le-feu, après qu'on pourra placer un point final, si j'ose dire, à ce qui s'est déclenché à partir du 7 octobre. Donc, on en sera informé, mais je pense qu'on estimera sans doute que ça vient peut-être un peu tard, mais en tout cas que dans l'échelle des préoccupations israéliennes, qui est aujourd'hui relative à la libération des otages, relative à la poursuite de la guerre, à la crainte en bon ordre, enfin voilà, les préoccupations sont telles que cette cérémonie-là, même si elle sera, on en parlera, mais elle ne suscitera pas de préoccupations particulières ou de marques spécifiques.
On a vu il y a quelques jours des parents d'otages faire irruption au Conseil des ministres israéliens, la colère, la frustration, l'angoisse de ces gens. Est-ce que l'opinion en Israël est de plus en plus écartelée entre la volonté de punir, sinon de se venger, et évidemment la priorité absolue de sauver les quelques 132 otages, parmi eux 28 seraient morts d'après les annonces du Hamas. Mais donc voilà une centaine de personnes dont on imagine encore une fois à quel point les familles attendent désespérément des signes de vie.
Oui, effectivement, vous parliez tout à l'heure dans votre question précédente du tissu national français et je dirais que vu du côté israélien, le tissu national israélien, alors bien sûr, il s'est soudé totalement, hein, toutes les divisions antérieures ont été effacées, refoulées, reportées voilà à la fin de la guerre et ce à quoi on assiste précisément parce que l'issue des combats n'est pas très claire, parce qu'il reste une incertitude concernant ce qui va se passer dans le Nord, concernant les otages, eh bien, ce à quoi on assiste, on va dire après deux ou trois mois durant lesquels cette unité est restée ferme et solide, eh bien, on voit aujourd'hui ce tissu-là se craqueler, à la fois à cause de déclarations intempestives de membres du gouvernement, de gestes politiques, hein, je pense notamment à cette soirée à Jérusalem pour appeler à une colonisation de Gaza. Voilà, on retrouve en quelque sorte les premiers ferments de division. Et j'ajouterais concernant la question des otages que je dirais que ça a été d'une certaine manière le seul clivage autorisé, c'est-à-dire qu'on s'autorisait, c'est-à-dire il y a ceux qui pensent que la guerre c'est l'objectif principal et que la libération des otages est un sous-produit en quelque sorte, une conséquence d'une guerre réussie, et puis il y a ceux, alors notamment les familles, mais également d'une certaine manière le centre et la gauche qui estimaient que l'objectif de la libération des otages doit être une priorité. Et si on a essayé, y compris d'ailleurs au gouvernement, de dire l'un sert l'autre, les deux vont de pair, hein, on a refusé de trancher justement pour pas heurter, pour pas diviser ce et pour pas faire craquer ce tissu national. Je dirais que très clairement depuis quelques jours et quelques semaines, plus les Israéliens se rendent compte que cet objectif d'éradication du Hamas ne peut pas être obtenu et ne le sera sans doute guère, alors la question de l'objectif de la libération des otages devient en quelque sorte la première cause. La guerre, on la gagnera un peu plus, un peu moins, mais en revanche, la vraie question, le vrai dilemme, est-ce qu'on retrouvera ces 138 otages vivants ou dans un cercueil ? Et quand on présente de manière un peu dramatique, comme je le fais là maintenant, ce dilemme, on comprend à quel point cette unité qui a régné est en train de se modifier, de craqueler, et je dirais pour le coup, au profit de ceux qui estiment que la priorité doit être la libération des otages, et à plus forte raison maintenant qu'il y a une négociation en cours dont on nous dit qu'elle avance, même si elle n'a pas encore abouti.
Sarah Daoud, la direction politique du Hamas a indiqué il y a deux jours étudier favorablement ce schéma de cessez-le-feu qui a été mis au point à Paris le week-end dernier. Il s'agit de la direction politique. On a compris depuis le 7 octobre la direction militaire sur le terrain à Gaza a une marge d'autonomie évidente. Est-ce que, selon vous, c'est dans l'intérêt du Hamas aujourd'hui d'envisager un cessez-le-feu et pour une longue période?
Oui, tout à fait. Quelques jours même après le 7 octobre, les cadres politiques du Hamas, effectivement, qui se trouvent en exil, se disaient prêts à revenir à la table des négociations. Ce que vous soulignez, effectivement, c'est cette division qui existe et cette autonomisation croissante de la branche militaire du Hamas dans la bande de Gaza vis-à-vis du leadership politique en exil. C'est tout à fait dans l'intérêt aujourd'hui des cadres politiques, en tout cas, d'aboutir à ce cessez-le-feu ou de reprendre les négociations, alors que la branche militaire se montre plus ferme, hein, de ce point de vue-là depuis le début. Cette autonomisation de la branche militaire du Hamas, elle n'est pas nouvelle, elle s'est faite progressivement ces dernières années. Il se trouve que, pour autant, la branche militaire actuelle, ou en tout cas les cadres du Hamas dans la bande de Gaza, à savoir Yahya Sinwar, qui dirige le mouvement, n'ont pas été toujours radicaux dans les négociations. Au contraire, les négociations de cessez-le-feu indirect dans la bande de Gaza ont connu un vrai essor à partir de 2017, au moment où M. Sinwar a été nommé à la tête du mouvement. Donc, les cadres qui se trouvent en exil aujourd'hui travaillent aujourd'hui à la réhabilitation, si vous voulez, du mouvement sur la scène internationale. C'est aussi une des raisons, c'est aussi pour ça que le mouvement a publié il y a quelques semaines un document qui explique les raisons pour lesquelles ils l'ont poussé à cette offensive le 7 octobre. C'est une communication qui est vraiment à destination de la communauté internationale, si je puis dire. Et l'objectif du Hamas aujourd'hui, c'est de retrouver, de négocier une place politique au sein de l'échiquier politique palestinien dans l'après-guerre.
Néanmoins, la charte d'origine, la charte fondamentale du Hamas, proclame la destruction totale de l'État hébreu. Et le Hamas reste considéré comme une organisation terroriste par les gouvernements occidentaux. Donc, cette idée de négociation, le paradoxe, c'est qu'en fait, c'est avec les gouvernements israéliens successifs que le Hamas a négocié depuis une vingtaine d'années.
Oui, et surtout avec le gouvernement Netanyahou ces dernières années. Concernant cette charte, je tiens à préciser qu'elle a été amendée en 2017, et c'est justement l'aboutissement de ces efforts diplomatiques qui ont été déployés par le leadership en exil surtout, donc Khaled Meshal en particulier, qui était jusqu'en 2017 à la tête du bureau politique du Hamas, et qui avait justement pour objectif de faire tomber ce label de voyou accolé au Hamas, et aussi terroriste. Donc il y a eu des tractations importantes hein, pour justement faire en sorte que le Hamas soit retiré de la liste des organisations terroristes, ce qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, le Hamas a aussi, et l'idéologie politique du mouvement a connu des évolutions, et c'est important de le noter. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi ce qui a poussé le mouvement à s'engager dans un processus de négociation indirecte par la médiation égyptienne, des services de renseignement égyptiens, avec Israël pour trouver un accord de cessez-le-feu en échange de la levée du blocus sur la bande de Gaza.
Donc, le leader politique Hanié qui vit au Qatar est aujourd'hui au Caire. Il est question d'un énième voyage du secrétaire d'État américain Blinken, en tout cas l'envoyé spécial du président Biden pour le Moyen-Orient, est lui aussi dans la région. Donc on peut imaginer, Sarah Daoud, que ces négociations sont toujours en cours et pourraient donc amener à ce troc entre un certain nombre de prisonniers palestiniens, et c'est le Hamas qui choisirait ou qui négocierait avec les autorités israéliennes l'identité de ces prisonniers.
Oui, et ça a été, c'est une pratique à laquelle on a déjà assisté à plusieurs reprises. Je pense notamment à l'échange de prisonniers contre le prisonnier Gilad Shalit en 2011. Et en échange, le Hamas avait obtenu plus d'un millier de prisonniers palestiniens avaient été libérés. Le Hamas fournit effectivement une liste de noms. Ce qui est intéressant de noter, c'est que le Hamas n'exige, ne demande pas nécessairement ou uniquement des personnes du Hamas justement, mais la liste est largement transpartisane, et c'est aussi ce qui permet au Hamas aujourd'hui le Hamas a gagné en popularité hein, depuis le 7 octobre. Je tiens à préciser que c'est une popularité en tout cas qui est davantage un soutien des Palestiniens à la résistance face à l'occupation qu'une adhésion partisane au Hamas. Mais dans tous les cas, le mouvement indéniablement a gagné en popularité, et le fait de demander des prisonniers, de fournir une liste transpartisane, ça lui permet d'asseoir davantage, de gagner davantage en poids politique sur la scène palestinienne, politique palestinienne.
Denis Charby, précisément ce précédent, en 2011, le soldat Shalit qui avait été détenu 5 ans en détention, est échangée contre 1027 prisonniers palestiniens, dont plusieurs cadres du Hamas, à commencer par Yahya Sinwar, qui est aujourd'hui le leader incontesté et le cerveau de l'offensive du 7 octobre. Est-ce que ce précédent a créé un traumatisme dans l'opinion israélienne au point de remettre en cause cette idée même d'un troc entre des otages d'un côté, des prisonniers palestiniens de l'autre ?
Il crée une division qui recoupe grosso modo la division gauche et centre d'un côté, droite et extrême droite de l'autre. C'est-à-dire que, et je mettrai les religieux de côté, j'en dirai un mot tout à l'heure. Pour la droite et l'extrême droite, même si Benjamin Netanyahou a gagné en popularité en 2011, hein, il a mis d'ailleurs fin d'une certaine manière grâce à cette libération de Gilad Shalit au mouvement de protestation qui avait commencé au mois de juillet 2011 à l'époque. Néanmoins, il en reste pour cette frange de la population israélienne un goût très amer puisque même s'ils sont tenus, hein, les prisonniers sont tenus de signer une déclaration en vertu de laquelle ils cesseront toute activité terroriste. On voit bien le résultat. Ce n'est pas le cas dans une grande partie des cas, évidemment. Et donc, ça c'est pour la partie de la droite. À gauche et au centre, on est beaucoup plus, sensible à ce que chaque otage représente de souffrance pour la personne concernée et pour les familles concernées également. On s'inquiète des traitements qu'ils pourraient subir, que les femmes notamment pourraient subir entre les mains, même si les témoignages qu'on a eus de la première vague de libération n'a pas laissé entendre n'a pas justifié ces allégations, mais là on n'est plus 2 mois après, hein, on est 4 mois après, et donc et voilà, et on considère d'une certaine manière que voilà la vie humaine vaut tous les sacrifices, et y compris donc la libération des quel que soit le nom, parce que le rapport de force ne nous est pas favorable aujourd'hui.
Je voudrais dire
un petit mot des partis religieux.
Oui, allez-y. Allez-y, il y a quelques interruptions. Oui.
D'accord. Pour dire que, en ce qui concerne les partis religieux, la question de la libération de prisonniers est quelque chose qui traverse toute la tradition juive. Donc, pension à penser que il faut sauver une vie humaine et que tout prix peut être payé afin de sauver ces âmes juives qui sont aujourd'hui détenues par le Hamas.
Mais Denis, il faut quand même insister sur et pardon pour l'expression, mais il y a une gestion des stocks de prisonniers palestiniens par les autorités israéliennes. Il semblerait d'ailleurs qu'il y a énormément d'arrestations ces dernières semaines dans les territoires occupés. L'idée étant que beaucoup de ces prisonniers sont en attente de jugement, en fait ne sont jamais jugés, mais qui peuvent servir en nombre justement à cet échange. On se souvient qu'en novembre dernier, donc il y a eu 3 échanges qui ont abouti à 105 otages libérés contre 240 prisonniers palestiniens. Donc il y aurait, et encore une fois pardon pour l'expression, mais un stock de prisonniers palestiniens qui servirait à monnayer en fait la libération des otages.
Oui, tout à fait. Ça fait partie, je dirais, de la logique de ce qu'on sait que le ratio ne sera jamais du 1 contre 1. Alors, cela conduit du côté des autorités israéliennes à avoir, l'arrestation facile, à faire en sorte que un grand nombre de personnes soient arrêtées pour constituer cette monnaie d'échange, afin de compenser ce ratio inégal. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est important. Dans la perception israélienne, il faut bien comprendre, il n'y a pas d'égalité entre les deux types de population.
Ouais.
Il y a des otages qui n'ont aucun acte à se reprocher, et de l'autre, vous avez
Oui, pardon pour ces interruptions. C'est paradoxal parce que Denis Charbitte est à Menton, donc ça veut dire que la liaison avec Menton fonctionne mal. Pierre Hazan, on vous rejoint. Vous êtes à Genève, espérant que ça fonctionne mieux. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial en matière de justice transitionnelle au Centre pour le dialogue humanitaire à Genève, et vous avez publié un livre très intéressant au titre suggestif « Négocier avec le diable ». Et en fait, à travers différentes crises internationales, la Bosnie, la guerre civile en Syrie, le Sahel, vous vous interrogez sur les relations entre le droit, la morale et la négociation, qui par définition intervient avec l'ennemi, et surtout quand il s'agit de l'ennemi terroriste. S'agissant des négociations entre Israël et le Hamas, est-ce que c'est un autre cas d'école, selon vous, différent ?
Chaque cas d'école est spécifique, et celui-là est inédit à bien des égards. Sans doute, ce qui frappe d'abord, c'est l'accord qui est intervenu le 21 novembre dernier, et dont aujourd'hui, vous avez fait allusion plus tôt, on vise à sa reconduction, c'est-à-dire d'échanger un certain nombre d'otages israéliens ou tous les otages israéliens contre des prisonniers palestiniens et surtout contre une durée de cessez-le-feu qui est en quelque sorte monnayée. Et donc il y a une sorte de transaction, une équation comptable entre le nombre d'otages libérés et la durée du cessez-le-feu. J'avais fait un petit calcul et je m'étais aperçu que le prix théorique de chaque otage libéré équivaudrait à 2h40 supplémentaires de cessez-le-feu. Donc tout ça est quand même très particulier à cette négociation. Le deuxième phénomène sans doute qui est pas totalement inédit, c'est évidemment disons l'absence de regard à l'égard du droit international, puisque la prise d'otage est, selon les statuts de la Cour pénale internationale, un crime de guerre. Mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, tous les belligérants n'ont pas été très respectueux du DIH. Puis évidemment, ce qui frappe particulièrement, c'est l'identité même des médiateurs. Le médiateur principal, le Qatar, qui n'a pas de relation avec Israël, qui ne condamne pas ce qui s'est passé le 7 octobre, mais en même temps qui reçoit sur son territoire le chef du Mossad et qui envoie une délégation à Tel Aviv et qui par ailleurs est le principal bailleur de fonds du Hamas et qui accueille sur son territoire aussi à la fois le leadership politique du Hamas, mais aussi le quartier général des forces américaines dans toute la région et jusqu'en Afghanistan. Donc on a vraiment un médiateur très très particulier qui est à la fois épaulé avec les Américains. Les Américains qui considèrent le Hamas comme une organisation, comme les Européens d'ailleurs, et comme les Nations Unies, comme une organisation dite terroriste, et donc avec lesquels, en théorie, ça serait évidemment interdit de dialoguer. Mais effectivement, cette vision idéologique, je dirais rigide, de ne pas vouloir dialoguer avec les terroristes, ne rend pas compte de la nécessité pragmatique de le faire.
Patrick Lugman, je rappelle que vous êtes avocat de famille d'otages franco-israéliennes. On voit dans les tourments du Moyen-Orient, et ce n'est pas nouveau, à quel point la place et le rôle du droit est sans arrêt invoqué et sans arrêt tourneboulé, sans arrêt bouleversé. Les familles que vous représentez ont porté plainte. Il y a une enquête du parquet national antiterroriste français. Comment est-ce que cette enquête peut progresser ?
Alors, le droit international, il a toujours été évoqué dans le cadre du conflit israélo-palestinien et souvent instrumentalisé par les différentes parties et de différentes manières. Là, on voit quand même de manière très claire que les conflits internationaux armés se judiciarisent On l'a vu la première fois, vous l'avez évidemment amplement commenté, avec l'Ukraine, où pour la première fois, la Russie s'est trouvée très vite aux prises avec des sanctions, des mesures de sanctions et des mesures de poursuite contre les dirigeants militaires. Ça, on a encore vu la même situation se développer avec la guerre à Gaza. La Cour pénale internationale, je vais venir après à nos affaires judiciaires, la Cour pénale internationale a ouvert une enquête, ce qui a chamboulé beaucoup de choses en Israël, puisque vous savez que Israël ne conteste la compétence de la Cour à enquêter sur son territoire et sur la situation qui se déroule, y compris dans les territoires occupés. Pour autant, le procureur Karim Khan a estimé qu'il était compétent, a reçu des familles israéliennes, s'est rendu sur place à Gaza, a été à Rafah et a même été en Israël. Donc on a.
Alors il faut préciser que la Cour pénale internationale, c'est une chose, la Cour internationale de justice,
c'en est une autre,
qui est donc qui appartient à l'univers des Nations Unies, c'en est une autre.
Les deux appartiennent à l'univers des Nations Unies. La Cour pénale internationale, elle juge d'un certain nombre de cas de crimes internationaux, mais tandis que la Cour internationale de justice, c'est une cour entre États. Les demandeurs, les parties au procès devant la Cour internationale de justice, ce sont les États. Elle aussi a été saisie par l'Afrique du Sud, et le défendeur était donc l'État d'Israël. L'Afrique du Sud a présenté le cas, entre guillemets, pour la population de Gaza, et Israël s'est défendu. L'Afrique du Sud demandait, comme mesure provisoire, au titre de la prévention d'un génocide, l'arrêt de l'opération militaire israélienne. Et la Cour internationale de justice a répondu un petit peu à côté, tout en accueillant la demande de l'Afrique du Sud, en disant « Israël, vous devez prendre toute mesure pour prévenir la survenance d'un génocide et vous devez revenir me voir dans un mois pour me montrer ce que vous aurez fait ». Et nous en sommes là. Et
puis, pardonnez-moi, que la Cour a rendu ses ordonnances dans l'urgence et non pas sur le fond.
Tout à fait. Ce sont des mesures provisoires.
Sur le fond, ça prend des années.
Pour ceux qui connaissent la justice, ce sont exactement comme quand vous allez en référer avant d'aller au fond. Vous demandez des mesures provisoires. L'Afrique du Sud n'a pas été satisfaite dans ces mesures provisoires, mais la Cour internationale de justice a dit je m'estime compétente et je vais regarder la situation. En fait, elle a calqué son attitude, si vous voulez, comme la Cour pénale internationale qui ouvre une enquête, qui est en cours et qui regarde ce qui se passe et qui, encore une fois, elle a reçu des citoyens victimes, y compris des citoyens israéliens, victimes des attaques du Hamas du 7 octobre. Et j'ajoute que vous avez partout dans le monde, des enquêtes internationales pour des pays comme la France, dont les ressortissants ont été des victimes. C'est cette enquête-là que moi je suis au parquet national antiterroriste. Il y a une très grande enquête qui est coordonnée avec les autorités, l'autorité judiciaire israélienne. Et vous avez, il y a quelques semaines, notre procureur national antiterroriste, avec ses collègues du monde entier, allemands, anglais, etc., tous ceux qui ont des victimes, qui sont retrouvés en Israël, pour faire avancer cette enquête. Je finis. Si les choses ne tournent pas bien, qui va répondre immanquablement, soit devant la justice internationale, c'est-à-dire devant la Cour pénale internationale, soit devant des justices nationales, françaises ou autres? Ce sont les dirigeants politiques du Hamas, parce que eux, nous savons où ils sont, les actes sont revendiqués notamment par le Hamas, et eux, s'il n'y a pas un accord politique global qui gère leur situation, eux, ils finiront par répondre en justice. C'est immanquable et incontournable.
Sarah Daoud, on a vu à quel point la lecture de ces ordonnances de la Cour internationale de justice a donné lieu en France même à des interprétations totalement divergentes de la part de gens qui, la plupart du temps, ne se donnaient même pas la peine de les lire. Est-ce que dans la population palestinienne, et encore une fois le terme n'est pas très précis, mais dans les territoires comme à Gaza, bien sûr, est-ce que ces ordonnances ont eu la moindre résonance ou le quotidien est tel qu'évidemment ce n'est pas la priorité pour les gens?
Alors, pour ce qui est des Palestiniens dans la bande de Gaza, pour reprendre l'expression de Denis Charbit, les préoccupations des populations sont d'une ampleur autre, vous l'imaginez. Donc non, de ce point de vue-là, ça n'a pas eu une résonance une forte résonance. Néanmoins, dans les territoires palestiniens, dans le reste des territoires palestiniens et au sein de la classe politique aussi palestinienne, l'autorité palestinienne, cette décision, malgré tout, qui n'appelle pas directement à un cessez-le-feu, mais en tout cas, les mesures qui doivent être prises par l'armée israélienne conduisent nécessairement à un cessez-le-feu. Elles ont été saluées. Ce qui est intéressant de souligner, ce qui a été fortement critiqué aussi, c'est le fait que ce soit l'Afrique du Sud qui ait demandé, qui se soit positionné pour défendre les Palestiniens et non pas un État arabe. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis le début de cette guerre, est fortement critiqué. Il y a eu des soutiens, bien sûr, aux Palestiniens de la part des sociétés civiles dans les mondes arabes et musulmans. Néanmoins, les dirigeants politiques, eux, demeurent très silencieux, voire, si je pense au cas de l'Égypte, ont pris des positions où on réagit de façon plus qu'ambivalente depuis le début du conflit.
Une question qu'on peut poser s'agissant encore une fois de ce cessez-le-feu qui devrait intervenir, on l'espère en tout cas dans les jours qui viennent, c'est le degré de contrôle que peut exercer le Hamas sur le territoire de Gaza par rapport à d'autres mouvances palestiniennes comme le Front Populaire de Libération pour la Palestine, le FPLP, le djihad islamique et aussi ce qu'il faut bien appeler des gangs, enfin des mafias dont on sait qu'elles négocient en particulier en dollars bien sûr la sortie d'un certain nombre de Gazaouis. Donc, est-ce que le Hamas peut répondre, si j'ose dire, des otages qui sont toujours prisonniers ?
Oui, c'est le Hamas qui, malgré le fait qu'il y ait un certain nombre, enfin, de nombreux groupuscules armés qui interviennent dans la bande de Gaza, c'est le Hamas qui, pour ce qui est des négociations, reste en tout cas l'acteur prépondérant. C'est vrai que c'est pas lié à cette guerre en particulier, mais en tout cas, on a assisté à plusieurs reprises des divergences entre différents groupes armés dans la bande de Gaza, voire même à des tensions. Je pense notamment à des tensions entre le Hamas et le djihad islamique à une période. En 2020 en particulier, lorsqu'il y a eu une escalade des tensions avec Israël suite à l'assassinat d'un cadre du djihad islamique dans la bande de Gaza par l'armée israélienne, le Hamas s'est désolidarisé de l'offensive. Donc il y a des divisions, mais là, actuellement, c'est le Hamas qui est le chef de file de ces négociations. Et pour revenir sur les propos de Pierre Hazan, il n'y a pas le choix que de discuter de toute façon, de façon indirecte avec le Hamas. Et ça a toujours été le cas, puisque depuis 2006, dans les faits, c'est le Hamas qui dirige la bande de Gaza. Et c'est bien pour ça que ces négociations de cessez-le-feu, le premier cessez-le-feu qui a été conclu entre Israël et le Hamas de façon indirecte, c'était en 2003. Donc ce processus de négociation-là existe depuis un certain temps et je pense que le gouvernement israélien, les autorités israéliennes ont bien compris depuis longtemps que c'est avec le Hamas qu'il faut négocier puisque l'autorité palestinienne de toute façon, et depuis le début du conflit mais même avant cela, est largement marginalisée dans ces négociations de cessez-le-feu.
On voit aussi, Sarah Daoud, la capacité de résistance et même d'offensive qui demeure après près de 5 mois depuis le 7 octobre, ce qui veut dire que l'armement dont dispose le Hamas, l'entraînement de ses milices, reste quand même très, très étonnant et manifestement provoque du côté israélien, sur le plan militaire, comme sur le plan politique, une déconvenue, pour employer un terme modéré, en tout cas une très forte, une surprise.
Oui, et d'ailleurs, le 7 octobre a été une surprise et a surpris aussi la puissance de frappe du Hamas et des autres groupuscules armés a surpris. Effectivement, comparé à d'autres offensives, je pense notamment à 2008-2009 ou encore 2014, l'arsenal militaire du Hamas s'est considérablement renforcé ces dernières années. On sait que, sans s'étendre dans les détails, puisque de toute façon, sur cette question, c'est quand même assez opaque. Les informations sont assez opaques. Les principaux fournisseurs sont l'Iran et le Hezbollah d'armes au Hamas. Cet arsenal a aussi été renforcé au moment des révolutions à partir de 2011, où l'approvisionnement aussi en armes via notamment les tunnels entre le nord du Sinaï et Gaza ont permis justement un approvisionnement en armes assez important.
Denis Charby, 220 soldats, dont beaucoup de réservistes israéliens, sont morts dans la bande de Gaza. Là aussi, un lourd tribut de la société israélienne. Quand on regarde dans le détail le projet de cessez-le-feu, il y a eu sur un site américain qui s'appelle Axios, qui est en général très bien informé, le déroulé de ce cessez-le-feu qui interviendrait en trois phases. Une première phase qui impliquerait au moins 6 semaines d'arrêt des combats avec la libération des enfants, des femmes, des personnes âgées, des malades. Mais à chaque phase, il y aura négociation, encore une fois, sur l'amplitude des concessions, c'est-à-dire combien de prisonniers palestiniens par rapport au nombre d'otages. Est-ce que le sort de Benjamin Netanyahou est lié à l'ampleur de ces concessions? Est-ce qu'il y a un risque d'implosion du gouvernement quand on voit les deux ministres religieux extrémistes qui dansent de joie à l'idée de réinstaller des colonies à Gaza?
Alors, je pense que sur la question d'une négociation heureuse aboutissant à la libération des otages, je crois que c'est aujourd'hui l'intérêt politique de Benjamin Netanyahou. Puisque concernant la guerre, on voit bien que les résultats sont équivoques. On n'est pas, je confirme, l'hypothèse de Sarah Daoud, que finalement tout est opaque. En Israël, côté de la radio israélienne, du côté du porte-parole de Tzahal, on nous annonce tous les jours que ça y est, on y arrive, ça y est, on est à la fin. Mais en fait, ce n'est jamais tout à fait le cas. Et donc, un cessez-le-feu maintenant assorti d'une libération des otages, c'est ce qui permettrait au contraire à Benjamin Netanyahou de rester en place. Certes, il y a la menace des deux partis d'extrême droite qui ont déclaré, avant même toute signature, avant même qu'on ait des informations précises sur l'échange des otages contre les prisonniers, ils menacent effectivement de quitter le gouvernement. Mais Yair Lapid, le leader de l'opposition, a déclaré aussitôt que s'il quitte le gouvernement, il rentrerait aussitôt pour éviter une crise politique immédiate. Je pense que concernant Benjamin Netanyahou et son avenir politique, il est incontestablement lié non pas à un cessez-le-feu et non pas à une négociation libérant des otages contre des prisonniers palestiniens, mais à la fin de la guerre. C'est alors que toute la colère rentrée, toutes les reproches qu'on lui a fait et qu'on commence à lui faire même publiquement éclateront au grand jour pour réclamer une chose, des élections qui auront lieu probablement d'ici la fin de l'année 2024, début 2025, parce qu'il n'est pas concevable que Benjamin Netanyahou et sa coalition restent au pouvoir, comme ils pourraient le faire légalement, jusqu'en novembre 2026, puisque le gouvernement a été formé en décembre 2023. Donc, il y a ici une attente qui en Israël existe. On appelle aujourd'hui, ce soir même d'ailleurs, il y aura des grandes manifestations pour réclamer des élections immédiates. Donc on voit bien qu'on est en train de fourbir, je dirais, le retour aux politiques. Mais je ne crois pas que la négociation heureuse d'un échange de prisonniers et d'otages affaiblisse Netanyahou. Je pense au contraire qu'elle permet de le maintenir au pouvoir. La question, encore une fois, c'est au moment de la fin de la guerre, quand on sera plus dans un cessez-le-feu provisoire mais durable, voire permanent, à ce moment-là, le temps de la politique reviendra, même si déjà des premiers signes sont entendus et peuvent être entendus d'ores et déjà.
Pierre Azan, on n'en est pas encore au temps de la politique dans un pays démocratique comme Israël, où la politique reprendra ses droits, on le comprend, et d'ailleurs beaucoup l'espèrent. Néanmoins, ce que l'on voit en ce moment, c'est le temps diplomatique et le délabrement des outils traditionnels, à commencer par l'ONU, qui est complètement marginalisé, et l'exemple bien sûr de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies dont dépend à Gaza, dans les territoires, mais aussi ailleurs au Moyen-Orient et notamment au Liban, la subsistance de beaucoup de populations déracinées. Tous ces outils traditionnels sont-ils, selon vous, inopérant, complètement inopérant aujourd'hui et singulièrement dans le cas de la guerre de Gaza?
Oui, je crois qu'on voit bien aujourd'hui que les Nations Unies sont marginalisées, on le voit évidemment dans le cadre de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, où le secrétaire général des Nations Unies s'est presque fait symboliquement gifler lorsqu'il s'est rendu à Kiev et que la Russie a envoyé deux missiles lorsqu'il sortait de sa rencontre avec le président Zelensky. Donc les Nations Unies sont sur la touche particulièrement aujourd'hui, mais il y a quelque chose de plus particulier concernant cette région-là, c'est que je crois que les Américains n'ont jamais voulu que les Nations Unies soient très présents dans les négociations historiquement entre Israël et les Palestiniens. Ils utilisent les Nations Unies essentiellement comme une agence technique, et c'était un peu le rôle de l'UNRWA, qui tente plus ou moins de survivre dans une constellation extraordinairement difficile, qui a 13 000 employés à Gaza, mais en même temps, évidemment, qui doit naviguer avec les pressions et un sentiment de la population d'une partie et pousse effectivement la cause du Hamas.
Oui, et là, Pierre, je vous interromps, pardon, parce qu'il faut préciser, donc que 13 des pays donateurs ont interrompu leur financement de l'UNRWA après les accusations d'Israël, des accusations donc d'infiltration par le Hamas de cette organisation.
Oui, effectivement, une douzaine de personnes qui auraient participé aux attaques du 11 septembre, et il y aurait 10% des employés de l'UNRWA qui seraient membres du Hamas. Et donc les pays occidentaux qui représentent 75% du budget de l'UNRWA, effectivement, aujourd'hui, font terriblement pression, mais eux aussi sont conscients des limites de l'exercice, puisque la situation humanitaire est gravissime à Gaza, et donc suspendre l'aide humanitaire aurait des conséquences gravissimes qui pourraient se retourner elles aussi, contre les bailleurs de fonds. Ça, c'est la première dimension, mais ce qui me paraît aussi intéressant, et on a parlé effectivement de cet accord entre le cessez-le-feu et la libération des otages, et la libération sans doute d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, mais au-delà de ça, il y a quelque chose de plus fondamental qui se joue, parce que d'une certaine manière, ça ne résoudrait absolument rien au conflit en cours. Donc est-ce que l'on peut avancer sur quelque chose de plus substantiel? En tout cas, c'est l'ambition de la doctrine dite de Biden, telle en tout cas que Thomas Friedman l'a signalé dans New York Times il y a quelques jours, et qui verrait, enfin c'est un peu l'objet des différents tracks, des différents médiation en cours avec, d'une part, les Américains, mais soutenus par les Qataris, les Saoudiens, les Égyptiens, les Jordaniens, et qui vise à plusieurs choses. D'une part, à imaginer, évidemment, un retrait israélien qui serait remplacé par une autorité palestinienne, alors complètement modifiée, évidemment, revitalisée selon les termes, peut-être selon les Égyptiens, conduite par des technocrates. Donc tout ça est à imaginer. Et évidemment, ensuite, le processus de reconstruction, avec une telle destruction, il faudrait des fonds absolument considérables. Et donc, les monarchies du Golfe seraient sollicitées, et ce qui amènerait évidemment en point d'horizon la création à court terme d'un État palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Alors tout ça est extraordinairement théorique. Les obstacles sont évidemment plus que considérables, à la fois dans les dynamiques au sein de la société israélienne et palestinienne, comme cela a été dit plus tôt. Peut-être, effectivement, ce chemin peut avancer, parce que sinon, effectivement, la situation risque, encore une fois, de se péjorer et la guerre sera évidemment au rendez-vous.
Est-ce que les représailles, les frappes menées par les États-Unis contre des milices pro-iraniennes en Irak et en Syrie hier, il faut le rappeler, la mort de 3 soldats américains à la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Est-ce que ces représailles risquent de compromettre ou en tout cas de ralentir les négociations sur le cessez-le-feu ?
On voit bien le potentiel d'embrasement régional. C'est en quelque sorte un jeu à côté, un jeu très dangereux, à côté du précipice que joue et l'Iran à travers ses proxies et de l'autre côté les États-Unis. Donc il y a une grammaire qui s'est installée. Pour le moment, elle n'a pas encore débordé et toute la question est là. C'est pour ça que un accord sur la libération des otages et un cessez-le-feu provisoire de quelques semaines permettrait de baisser le niveau de tension, mais en soi ne résoudrait rien sur le fond.
Denis Charbit, est-ce que la perspective d'un État palestinien, dont désormais la diplomatie américaine parle quotidiennement, à chaque fois le gouvernement israélien répète il n'en est pas question, néanmoins Israël dépend des États-Unis pour son armement et en dépend quand même considérablement en termes de soutien diplomatique.
Tout à fait. Je dirais même que, Christine, ce sera l'enjeu des prochaines élections. Vous savez, on a souvent dit, hein, et on a souvent témoigné que depuis une dizaine d'années, les élections se faisaient sur d'autres thématiques. Ça pouvait être l'Iran, effectivement. Ça pouvait être la personnalité du leader. Ça pouvait être sur des affaires économiques et sociales. La qualité est devenue marginale, non seulement dans le monde, mais également dans l'agenda israélien. Et là, c'est clair que la campagne politique que mènera Benjamin Netanyahou sera celle-là. Alors, le seul leader pourra empêcher la création d'un État palestinien. Et nécessairement, l'opposition autour de Benny Gantz et Gadi Eisenkot devra répondre à ce défi-là en disant « nous le ferons d'une manière responsable ». Et en ce sens, et là, Pierre Hazan l'a tout à fait bien remarqué, toutes les opérations israéliennes et toutes les depuis 2007 se sont toujours terminées par une intervention de la communauté internationale pour établir un cessez-le-feu, jamais pour passer à une négociation définitive du problème palestinien. Mais là, la guerre sans précédent, les massacres de masse sans précédent obligent la communauté internationale et parviendront à convaincre les Israéliens également qu'on ne peut plus se contenter d'un cessez-le-feu qui, plusieurs années plus tard, serait défait par de nouvelles opérations militaires. Et c'est donc, je dirais, une petite fenêtre d'opportunité, très étroite, hein, presque, je dirais, une meurtrière. Mais tout le monde est sensible, effectivement, en Israël aujourd'hui, à l'idée que on ne peut pas se contenter d'un cessez-le-feu, comme on s'est contenté jusque-là, depuis 2007.
Patrick Lugman, la conclusion provisoire de cette conversation vous revient, bien sûr. Ce qui est frappant à chaque fois que l'on s'intéresse à ce drame permanent israélo-palestinien, c'est la divergence des récits. Deux récits, deux sociétés traumatisées, avec deux récits contradictoires pour une même histoire, pour une même terre, et une terre très exiguë.
Oui.
Est-ce que, vu de chez nous, on a trop tendance, en fait, à déformer les proportions et les arguments?
Je me souviens de quelqu'un qui disait « c'est beaucoup plus facile de discuter avec les Palestiniens qu'avec leurs amis français ». Et la crise du 7 octobre, ces propos très antérieurs, ne fait que renforcer cette idée. Et on pourrait évidemment dire la même chose des Israéliens et de certains de leurs amis bruyants ici en France. Je le disais, le 7 octobre nous a un petit peu fait du mal sur un universel. L'universel ne peut pas être partiel, communautarisé. Il nous donne des notions auxquelles nous devons tous nous raccrocher et pouvoir nous rapprocher. Ça va, bien entendu, par des normes de droit, par des normes de fait, des normes historiques et morales. Bref, tout ça pour vous dire que le 7 octobre est un désastre pour la commune humanité, pour notre capacité à dépasser des clivages identitaires vers des valeurs communes. Néanmoins, puisqu'il faut atterrir, l'outil, c'est la politique qui devra reprendre ses droits. C'est la justice internationale qui devra passer dans toute cette dimension sur ce qui s'est passé le 7 octobre et après. Et on parlait de l'hypothèse d'un État palestinien. Pour moi, l'hypothèse n'est plus à l'ordre du jour, c'est un impératif. Quelle que soit notre situation ou notre position, la situation qui a prévalu jusqu'au 7 octobre, y compris dans cette dimension-là, ne peut plus durer. Là, Palestine doit exister comme État. Israël doit avoir en contrepartie des frontières sûres et reconnues. Il faut en finir avec la situation que les Palestiniens puissent encore se considérer comme réfugiés. Il faut un moment arriver, le moment est arrivé où il faut clore cette dispute et que chacun ait des droits ou des compensations. C'est comme ça que l'humanité, depuis la nuit des temps et depuis qu'elle se considère comme une humanité, avance.
Eh bien, écoutez, écoutons évidemment ce vœu, écoutons aussi les analyses, et je les en remercie. La vôtre, Sarah Daoud, je rappelle que vous êtes chercheuse affiliée aux séries de Sciences Po, au Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire. Pierre Azan, vous avez publié aux éditions textuelles en septembre 22 un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Négocier avec le diable ». Denis Charby, une nouvelle édition actualisée et augmentée de votre livre « Israël et ses paradoxes, idées reçues sur un pays qui attise les passions » aux éditions Cavalier Bleu. Je vous remercie bien sûr Patrick Klugman, ainsi que Luc-Jean Reynaud à la réalisation ce matin, à la technique Ludovic Auger. Des remerciements très particuliers à la documentation de Radio France, dont le concours est évidemment chaque semaine très précieux pour préparer cette émission, à laquelle a contribué, comme chaque semaine, Merzia Nezic. Et puisque nous sommes samedi, voici maintenant, avec un peu d'avance, Sous les radars, avec Nora Amadi, et je vous retrouverai bien sûr avec plaisir samedi prochain pour une nouvelle édition d'Affaires étrangères. Très bon week-end, à samedi prochain.